Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis.
Nova.
Dans mes souvenirs, je ne dis rien. En tout cas, je donne au champ, je souris. Donc, je souris, je réponds, je suis gentille, je mets un masque, en fait. La masque de celle qui va bien et qui... Mais si j'avais dit oui, je pense que enfin, de toute façon, mon oui aurait dit non. Quand on dit oui avec des larmes dans les yeux ou oui avec le corps qui est crispé, ça, c'est un non. C'est-à-dire que le non, la parole, n'était pas là. J'avais pas accès à elle pendant quand ça m'arrivait. Mais je pense que mon corps parlait de lui-même, par contre. Et c'est une façon de parler aussi.
Elle était mannequin, elle est devenue écrivaine. Et après 4 romans, elle publie un livre sans fiction. C'est juste elle, son histoire, qu'elle avait commencé à raconter dans la presse, en interview, et qu'elle a mis en page dans Zone Grise. L'histoire de ce week-end dévastateur, passé avec un photographe il y a 10 ans. Ce week-end où elle n'a jamais dit non. Cette histoire qui interroge sur l'importance que peuvent bien avoir les mots parfois, quand de toute façon, les silences sont si clairs. Loulou Robert a 27 ans et elle m'a reçue dans les bureaux de son éditeur Flammarion sur la place de l'Odéon à Paris. On entend les voitures par la fenêtre et je lui ai demandé de raconter l'histoire qui est au cœur de Zone Grise.
C'était mon premier shooting. J'avais été envoyée d'ailleurs à un casting d'abord chez ce photographe toute seule où il m'a demandé de me déshabiller et où il m'a auscultée. C'est d'ailleurs le terme que je reprends dans le livre, comme si c'était presque un docteur qui regardait, qui était à ça de 2 cm de mon sexe, qui regardait mes hanches comme si j'étais un objet. Donc moi, c'était la première fois que je me retrouvais nue, d'ailleurs, devant un homme. Et il m'a demandé de me rhabiller, il m'a dit « Ok, c'est bon ».
Vous aviez quel âge ?
Je venais d'avoir 18 ans. Donc, et après ça, on m'appelle, mon agent m'appelle, il me dit « Génial, t'as eu le job. Donc, par contre, c'est du nu ». Je dis « Ok ». Pour moi, je dis « Ok, c'est du nu ». Bien sûr, je savais ce que c'était le nu, mais je ne savais pas ce que c'était le nu. Parce que moi, à part avec mon petit copain de l'époque, et on avait le même âge tous les deux. Voilà, et j'avais déjà un rapport très compliqué à mon corps. Donc le nu, okay, bon. Mais c'est bien. C'est super pour toi. C'est pour un magazine américain. C'est génial. C'est pas rémunéré. Mais bon, ça va te faire avoir d'autres jobs. Ça va être vu. Par contre, tu vas y aller seule. Il n'y aura pas d'équipe. Parce que le photographe n'aime pas... Enfin, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas spécialement de budget. Voilà, mais c'est amical, il est très sympa, tu verras. Bon, il est un peu tactile, hein, mais enfin, tu verras, ça va bien se passer. Bon, j'y vais. Confiante. Un peu inquiète parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Je ne voulais pas... Voilà. Je n'avais jamais fait de photo, quoi, avant. Donc, on part tout un week-end chez un ami, en fait, qui avait une espèce de château à Vichy, du photographe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... il est très, très sympa, très tactile. On s'entend bien. Je suis à l'aise, en confiance. J'ai l'impression d'être traitée comme une adulte. Ça se passe bien. Et puis, les premières photos arrivent. Donc, je suis nue, avec une culotte qui vient souvent bouger. Il me manipule comme une poupée, en fait. Il vient bouger mon corps, mais je me dis, ok, c'est normal. Il touche mon corps, mais c'est pour les photos. Et ça fait bizarre, mais c'est normal. Et puis, je sais plus si c'est à la deuxième ou à la troisième. Mais il vient, on était dans une chambre bleue, il y avait un lit, une place, et j'étais allongée dessus, et puis il vient s'allonger sur moi, et il me parle de sa vie, qu'il est malheureux, de son amoureuse, qu'il lui donne pas ce qu'il veut, qu'il a besoin de tendresse, et puis il commence à m'embrasser, puis très vite, je sais pas si c'est sur cette photo-là, c'est ce que j'étais dans le livre, parce que la mémoire est assez, ou la prochaine, ou celle... Mais il vient en moi, il me pénètre, et moi, je fais rien. Je dis pas non, je dis pas oui, je dis rien. Je me laisse faire. Et je m'extrais, en fait, je pense plus, j'existe plus. Et ça, pendant tout le week-end, après ça, à chaque photo, à répétition. Et ça se passe tout le temps. Donc ce week-end, elle se passe, je rentre chez moi. J'ai mal. Mon sexe est, on va dire, abîmé. Mais j'arrive pas à penser, en fait, je me dis que c'est bien. J'arrive même pas à me dire quelque chose. Et en fait, très vite, ce qui se passe, c'est que je dis à mon amoureux de l'époque, je dis, j'ai eu une histoire avec ce photographe. Je l'appelle D dans le livre. Je dis pas plus. Et après, c'est l'histoire que j'ai racontée pendant 7 ans à ma famille et à moi-même en premier, en fait. J'en parle pas, j'arrive pas vraiment à y penser, mais je dis, j'ai eu une histoire. Et le silence. Et rien. Ce qui est complexe dans la relation, dans ce qui m'est arrivé avec ce photographe, c'est qu'après, je l'ai revu. Dès qu'il m'appelait, dès qu'il m'envoyait un texto, j'accourais, sans réussir à... J'avais raconté à mon copain que c'était bien pour moi, que c'était ça, être une femme, qu'il me traitait comme une femme et que c'était une bonne chose. Et donc, je le revois plusieurs fois. J'ai même un autre shooting avec lui où ça se passe pendant tout le shooting. Il vient dans ma chambre toutes les nuits et tout. Et jusqu'au jour où il y a un moment où, chez lui, il a un geste un peu violent qui, moi, me choque. Même sans que je me dise quoi que ce soit, je bloque juste. Et après ça, je le revois plus. Et à partir de là, on a une relation que je dis amicale pendant plusieurs années, voilà. Jusqu'à ce que tout me revienne, c'est même pas en mémoire, le bon mot, c'est au corps, quoi. Et que je réalise ce qui s'est vraiment passé pendant ce week-end, c'est-à-dire que j'étais pas consentante et que ce qu'il a fait, c'était qu'il a abusé de moi pendant tout le week-end et après aussi, que je voulais pas, voilà.
Et comment tout vous est revenu ?
C'est un soir, en fait, je rentre chez moi et j'allume la télé et là, je tombe sur le film, l'adaptation du livre de Flavie Flamand, La Consolation, de son viol par David Hamilton. Et c'est une scène, en fait, où le photographe, enfin l'acteur, mais lui remonte la jupe de l'enfant. Et là, en fait, tout mon corps se crispe, se bloque. J'ai extrêmement mal au ventre, j'ai froid, je vomis, je me sens vraiment mal. Et là, en fait, ce soir-là, mon père dormait chez moi, il rentre tard. Et quand il rentre, en fait, il me retrouve complètement choquée, un état de choc. Et c'est là que je raconte, en fait, l'histoire de celle que j'étais, de la fille qui ne voulait pas, quoi. Et je répète ça en boucle, je ne voulais pas, et je pleure, et je dis que je suis désolée, et que je m'en veux parce que j'ai menti. En fait, c'est comme si là, le corps se reliait à la tête. Donc, je réalise, en fait, que avoir été violée, ça a été compliqué de le dire. Et que je suis pas un seul moment, j'ai voulu ce qui est arrivé, quoi.
Et je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que vous écrivez beaucoup sur ce que vous n'avez pas dit. Et on a beaucoup parlé ces dernières années de ce qui est dit ou pas au moment des viols, au moment des agressions, comme si les paroles changeaient quelque chose. Et on a beaucoup entendu dans la culture du viol, dans des films, dans la pop culture, dire « oui, mais il y a des noms qui veulent dire oui ». Dans le livre, il y a toute cette réflexion-là. Et pour la première fois, je me suis dit « mais en fait, parfois, les mots, ça change rien ».
Dans mes souvenirs, je ne dis rien. En tout cas, je donne au champ, je souris. Donc je souris, je réponds, je suis gentille, je mets un masque, en fait. La masque de celle qui va bien et qui... Mais si j'avais dit oui, je pense que, enfin, de toute façon, mon oui aurait dit non. Quand on dit oui avec des larmes dans les yeux ou oui avec le corps qui est crispé, ça c'est un non. C'est-à-dire que le non, la parole, était pas là. J'avais pas accès à elle quand ça m'arrivait. Mais je pense que mon corps parlait de lui-même, par contre. Et c'est une façon de parler aussi.
Il disait quoi pour vous ?
Bah, il disait peur, il disait blocage, il disait absence. Mais j'aurais aimé dire non. J'aurais vraiment aimé, mais je l'ai pas fait. Et j'ai pas réussi à le faire, j'ai pas pu le faire. J'ai même pas pensé à le faire. C'est-à-dire que c'était pas possible pour moi. Et puis j'ai été choisie et j'ai été amenée dans cet endroit-là parce que j'étais une fille aussi qui ne savait pas dire. Je pense que ces hommes-là sont sensibles aussi à celles qui vont pouvoir abuser. Parce que si j'avais été capable de dire non, je pense qu'ils l'auraient senti, voilà, et que j'aurais pas été, en fait, confrontée, parce qu'ils choisissent, en fait, leur proie. en fonction de leur fragilité et de voilà quoi. Et puis ils amènent à l'aide de blagues, on est assez amical, mais c'est pas vraiment amical, mais c'est professionnel, mais c'est donc en fait la confusion est partout, donc en fait on ferme sa gueule et on laisse faire quoi.
Est-ce que vous avez le sentiment que dans la vie ça a toujours été difficile pour vous de dire non?
Bien sûr. Avant d'être une jeune femme, j'étais une petite fille qui était très docile et qui avait, pas parce que mes parents me l'avaient appris comme ça, mais qui avait plutôt peut-être la société, ce que je regardais à la télé, ce qu'on me renvoyait en tout cas à l'école, ou que le non, c'était être méchante, c'était pas bien quoi. Et c'est vrai que dans même les premiers rapports avec les garçons, toutes ces choses-là, c'est compliqué en fait de dire non. Comme de dire oui aussi d'ailleurs, mais le non n'existait pas vraiment quoi.
Il y a quelque chose qui m'a frappée moi dans le livre et dans le titre « Zone grise », c'est qu'on a entendu beaucoup d'histoires depuis 2017, depuis MeToo, de viols où les femmes avaient dit non, de viols... un peu toute la granularité qu'il peut y avoir autour du consentement. Mais en fait, dans le livre, ça n'a pas l'air tellement gris, ce que vit la narratrice et ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que vous n'avez pas dit non et vous insistez beaucoup là-dessus, comme si vous sacralisiez un peu la parole qui n'a pas été dite. Mais on a le sentiment que c'est très clair que le personnage ne veut pas et que vous n'avez pas voulu, en fait.
Mais zone grise, d'ailleurs, le terme arrive vraiment à la fin du livre, parce que j'en parle pas avant, non. Pour moi, elle n'est absolument zone grise, je mets des guillemets, même quand j'écris des dédicaces, parce que justement, j'essaie plutôt de la désinguer que d'en faire. Je la définis pas, la zone grise. Au contraire, je raconte un passé qui passe pas, d'ailleurs. Et j'essaie plutôt de la détruire, parce que pour moi, c'est pas gris. Le viol est pas gris, le sperme n'est pas gris, et ce qui m'a fait, c'est pas gris. La zone grise, c'est un terme qui est très dangereux, parce qu'il y a des douanes complètement. Je trouve l'agresseur, on dit, ok, les signaux étaient brouillés, donc il pouvait pas savoir. Mais non, c'est pas vrai, c'est lui qui m'a amené là. Et moi, oui, moi, mais si j'arrivais pas, je me suis laissée faire, sur le moment, c'est même pas que tout est gris, c'est rien. D'ailleurs, le vide, la page blanche, quoi, mais c'est pas gris, la situation n'est absolument pas grise. Il y a eu, d'ailleurs, j'ai mis du temps à réussir à dire le mot viol, parce que j'y avais pas le droit presque, parce que je n'ai pas dit non, parce que c'est pas un viol simple, je mets encore des guillemets, mais c'est complexe comme situation, mais maintenant, je me permets totalement d'ailleurs de l'employer, puisque je l'ai ressenti et je l'ai vécu. Et que c'est pas réservé que aux victimes qui ont été pénétrées par un tesson de bouteille, qui sont fait fracasser la gueule. Non, il y a des viols aussi. Il y a des viols qui sont pas directs, on va dire. Quel mot employer, quoi. Mais il y a différentes formes de viols. Le résultat lui-même, c'est qu'il y a viol, quoi.
Autre chose dans le livre, c'est une sorte d'accumulation de silence et de moments où vous n'avez pas pu dire non, et vous revenez sur d'autres agressions que vous avez subies beaucoup plus jeunes. Comment vous êtes passée de cette jeune femme qui n'arrivait pas à dire non, puisque vous dites beaucoup celle que j'étais à l'époque, quand j'étais comme ça, quand j'étais cette jeune femme, comment vous avez appris à dire non?
Après toutes ces situations qui sont répétées, ces viols, je me suis complètement fermée. Déjà, je suis devenue très, très froide, très dure, surtout avec les hommes, en fait. Donc, le non était d'office. C'est-à-dire que je ne laissais même pas non. C'était non. Et comment ça arrivait, en fait. À force de prendre des coups, on s'endurcit, même sans s'en rendre compte. On a des putains de blocages. On ne laisse plus personne t'approcher. Donc, j'ai souvent été peut-être un peu dure, d'ailleurs, avec certains hommes, parce que je pouvais pas, quoi. Très agacée, très vite, Puis après, ça s'est équilibré. On va dire que maintenant, j'arrive à dire non. Mais encore aujourd'hui, je suis avec un homme que j'aime. On vient de se marier. Donc c'est plutôt ça finit. Voilà, c'est comme quoi. Mais encore aujourd'hui, il m'apprend, lui aussi. Il m'aide à dire non, parce que c'est pas toujours simple, en fait. Et après, au quotidien, maintenant, je sais dire non. Enfin, j'arrive à dire non. Dire oui aussi, c'est compliqué dans la vie. Hein. C'est compliqué. Enfin, je trouve que c'est compliqué, moi.
En fait, si et dire oui et dire non, c'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'écouter son propre désir.
Ouais, d'écouter son désir, d'être connecté à lui et de savoir qu'il est là déjà, d'avoir accès. Et après, de l'écouter et puis de le relier à la bouche, quoi.
Robert publie Zone Grise chez Flammarion. Cet épisode de Fracas a été monté par Lucille Rousseau, il a été réalisé et mixé par Malo Williams, la musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Je vous invite aussi à aller écouter tous les autres podcasts de Louis, notamment Émotion, Travail en cours ou le Book Club, et à nous suivre sur les réseaux sociaux, ou à nous écrire à Chapudlo sur Instagram ou hello@louismedia.com. À très vite.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.
Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.